Bonjour à tous. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça va, je vous entends mieux déjà. Merci Seigneur pour ce temps où il nous permet de mettre à part pour lui, pour le louer, pour l'adorer. Nous sommes au mois de septembre. Et on se dit que ça va vite. Et ce mois de septembre aussi amène d'autres perspectives. C'est une nouvelle saison qui commence pour les activités dans l'église. Mais aussi, demain, ce sera la rentrée des enfants, reprise de travail. Et voilà. Et c'est parti encore pour 9-10 mois. Et pendant ces 9-10 mois, il y aura encore ces lots de défis. On va devoir travailler, on va devoir faire face à certaines réalités de la vie. Mais en toute chose, Dieu nous promet d'être avec nous. Et nous voulons quand même prendre le temps ce matin, même si nous savons qu'il y a cette nouvelle perspective, cette nouvelle saison devant nous, de prendre le temps de louer Dieu pour ce qu'il a fait. Se rappeler ce qu'il a fait pour nous permettre aussi d'affronter ce qui est à venir, sachant que notre Dieu, lui, il est fidèle et il ne change pas. Et c'est la force de ce peuple, le peuple de Dieu. Le psaume 33, un psaume de joie qui nous invite à la louange, à l'adoration, commence ainsi. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. C'est ce que nous avons. Nous avons des instruments, mais aussi nous sommes là avec nos voix, ce que Dieu nous a donné. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il leur donne et elle existe. Voilà notre Dieu, jusqu'ici, je fais la lecture. Mais ce psaume nous parle de ce Dieu créateur qui a fait les cieux et la terre et par sa fidélité la tient dans sa main et la garde. Malgré tout ce qu'on peut entendre, réchauffement climatique, etc., Dieu est celui qui garde parce que sa parole maintient cette terre, il tient cette planète, il tient cette terre dans ses mains. Et en son temps, il la renouvellera. C'est sa parole qui le dit. Donc, ce psaume nous invite à célébrer Dieu parce qu'il est ce Dieu créateur fidèle. Plus tard, il nous invite aussi à le célébrer parce qu'il est sage. C'est lui qui, un peu plus loin, qui dit qu'il a formé le cœur des hommes. Il connaît le plan des nations, il connaît, il voit, il sait. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Et comme il a été dit, la fin de ce psaume aussi nous invite à le célébrer pour sa bonté. Dieu est fidèle, il est sage et il est bon. Et nous voulons célébrer cette bonté. Et nous venons, parce que le psaume nous dit, il est bon de célébrer l'Éternel. Pour ceux qui sont rachetés, ceux que Dieu a rachetés par le sang de Jésus-Christ, il est bon de célébrer notre Dieu. Et nous allons débuter notre moment par ce chant. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges. Je veux dire notre reconnaissance pour tout ce qu'il a accompli. Nous venons. Avec lui. Notre culte n'a pas de sens sans Dieu. Nous n'avons pas de raison d'être là sans Dieu. Et c'est ça notre prière. Dans le deuxième chant que nous allons prendre, nous désirons, Seigneur, une chose aujourd'hui, c'est que dans sa présence, il puisse transformer nos vies. Élève-toi.
Nous désirons, Seigneur,
vivre, que tu sois présent parmi nous, que tu sois là par ton esprit. Alors vraiment, nous désirons que tu saisisses nos cœurs, tu saisisses nos pensées en ce matin, que tu disposes nos cœurs à écouter ta parole, que tu disposes nos cœurs vraiment, Seigneur, à oui, à te suivre. Nous voulons te suivre, nous voulons être transformés par toi. Que tu transformes nos pensées, que tu transformes nos caractères et tu nous apprennes, Seigneur, à te suivre, à t'aimer comme il se doit, notre Dieu. Sois béni, sois honoré, notre Dieu. Amen. Avant de laisser la place pour la scène, nous prenons ce chant. Déclarer que notre Dieu, il est fort et puissant. Nous voulons proclamer que notre Dieu, il est fort et puissant. Et nous sommes au bénéfice de cette force, nous sommes au bénéfice de cette puissance. Malgré les dangers qui peuvent nous entourer, mais dans cette perspective, dans cette nouvelle saison qui pointe son nez, Dieu est fort et puissant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, dit-il. Dieu, tu es ma force et mon chant. Je tue ma foi.
Voilà, nous bénissons Dieu. Pour ce temps de Sainte-Seine, ce matin, nous allons faire quelque chose de particulier. Vous êtes en train de recevoir des petits bouts de une demi-page avec dessus entre 11 et 10 interrogations. Je souhaite que nous prenions ces quelques minutes pour lire. Ce temps de Sainte-Seine est un temps où nous pouvons nous arrêter deux fois dans le mois en nous souvenant de ce que Christ a fait pour nous à la croix, en réfléchissant comment nous le suivons, parce que la mort de Jésus a coûté à Dieu à cause du péché. Et donc il est bon que quelquefois nous prenions le temps de lire ces fiches et laissez-vous interpeller, parler par ces fiches. Et après, je lirai un texte biblique et nous partagerons le repas du Seigneur. Cette méditation au travers ces questions, pendant le service de la Sainte-Seine tout à l'heure, nous rappeler ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, partie du verset 23. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: c'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant: cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le sang, envers le corps du moins et le sang du Seigneur. Que chacun s'examine plutôt lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boivent de la coupe. Et ce matin, c'est sur cet accent que je voulais m'arrêter. Que chacun s'examine plutôt lui-même. Et qu'ainsi, il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Ce pain et cette coupe sont un pain et une coupe symboliquement qui nous rappellent la vie du Seigneur. Et l'invitation ici, c'est vraiment que nous puissions le faire pas de façon traditionnelle et sèche, mais de façon consciente et conséquente. Qu'à chaque fois que nous prenons la scène, que nous puissions, au-delà du sentiment, avoir cette résolution d'avancer toujours un peu plus profond dans notre relation avec Dieu. Et si d'aventure, il y a dans nos vies des choses, des caractères, des traits de caractère du moins, des habitudes, des comportements, des valeurs, des incidents que nous savons pertinemment ne pas nous faire du bien et ne pas être à la gloire de Dieu, prenons ce temps, s'il vous plaît, pour nous recueillir dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'à lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner si nous confessons nos péchés à cause de Jésus-Christ, son Fils. Je vais inviter le frère Henri et le frère Émile à venir avec moi. Et nous allons rendre grâce à Dieu. Nous ne prions pas pour les éléments de la scène, parce que c'est des symboles qui nous rappellent quelque chose. Mais nous rendons grâce à Dieu, parce que nous faisons obéissance à Dieu en nous remémorant assez régulièrement ces événements-là. Le frère Henri va bénir le Seigneur pour le pain et le frère Émile pour la coupe.
Merci Seigneur, nous sommes dans ta présence Jésus. Seigneur, tu es avec nous, nous le savons. Et Seigneur, ce matin, nous sommes honorés Jésus-Christ. Dans ta présence Seigneur, nous partageons ce pain qui nous rappelle ton corps, le corps brisé de la croix, le corps martyrisé. Seigneur, tu l'as fait pour nous. Seigneur, nous rendons compte, Jésus, le prix élevé que tu as payé pour nous. Seigneur, pour nos péchés. Alors tu n'as rien fait, toi, Seigneur. Tu n'as commis aucun péché. Mais tu l'as fait par amour. Jusqu'à la croix, Seigneur Jésus, tu as manifesté ton amour pour que nous soyons délivrés de tout péché. Nous qui étions condamnés pour l'éternité, mais Seigneur, tu n'as pas voulu, Seigneur Jésus, que nous soyons nous condamnés. C'est pourquoi, Père, ce matin, nous te bénissons, Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton corps brisé. Merci pour ce pain que nous allons partager. Ce pain qui nous rappelle ton corps, le corps qui a souffert. Seigneur, ce matin, visite nos cœurs, Jésus-Christ. Que nous nous rendons compte, Seigneur Jésus, que ce n'est pas un simple rituel. C'est un sacrifice que tu as fait pour nous. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin encore, bénis ce pain qui représente ton corps. Merci. Et en prenant, Seigneur Jésus, ce pain, ce corps, que nous soyons, Seigneur Jésus, délivrés là où nous péchons. Nous le prenons, Seigneur, ce corps par la foi, dans la repentance, Seigneur, de nos péchés. Sois béni, Jésus, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen.
Dieu notre Père, nous voulons te bénir, Seigneur, parce que, Seigneur, tu as changé, Seigneur, la malédiction, bénédiction pour nous, parce que tu nous aimes. Nous voulons nous rappeler cela aujourd'hui. Et tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci parce que tu as payé pour nous libérer de la malédiction. Nous te rendons gloire, Seigneur Jésus. Et merci pour ton sang versé qui nous rachète de nos péchés. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que tous ceux qui sont prêts, être prêts, c'est vraiment être dans ce mouvement de ressembler à Jésus, de demander pardon et de le laisser nous pardonner, nous renouveler et de communier avec la grâce que celui qui est mort est aussi ressuscité et qu'il est vivant pour nous redonner la force de repartir de plus belle avec lui. Communion ensemble.
Aujourd'hui, crie Abba Père. Seigneur, toi tu demeures fidèle. Et je te prie de venir au secours déjà de même de mon incrédulité, de toutes mes résistances, s'il te plaît, que tu puisses, par ta grâce, nous faire grandir en Jésus-Christ. Soumettre nos cœurs à ta volonté. Et pour cette nouvelle saison qui commence et pour le reste de notre vie, que nous puissions repartir de plus belle et servir le glorieux Dieu que tu es. Sois honoré, Seigneur. Amen. Si quelques personnes dans l'assemblée veulent également élever la voix vers notre Seigneur,
avant le monde, tu existais.
Élevé à la droite de Dieu. Et il est couronné. Couronné de gloire. Couronné de mille couronnes.
Bonjour bien-aimés, nous bénissons le Seigneur qui nous a donné ce temps pour le louer par nos chants, par nos prières et de communier aussi à ce repas du Seigneur. Cette fiche que je vous ai donnée pendant la Sainte Cène va nous servir d'introduction. J'aimerais juste, à la suite de ce que nous avons fait ces deux derniers dimanches, nous encourager à être ce que nous sommes, des chrétiens, en avançant vers la maturité en Christ. Là, je vous ai remis quelques questions de la fiche que je vous ai donnée Il y en a 12, mais ce n'est pas par ordre de grandeur, c'est juste un questionnaire. Ce n'est pas la parole de Dieu non plus, mais ça nous permet, voilà, de nous remettre devant le Seigneur. Ce matin, ce que je veux aborder avec vous, c'est la diapo d'après. Vas-y, pardon. Jésus, lumière sur ma façon de vivre. Le thème initial que j'avais formulé, c'était Jésus, lumière du monde. Je crois que parfois, quand les thèmes sont trop généraux, parfois ça nous parle pas de façon très personnelle. Jésus, lumière sur ma façon de vivre. Pourquoi ? Vas-y. Pourquoi c'est si important de nous rappeler, pour ceux qui sont dans la foi depuis longtemps, et pour ceux qui sont jeunes ou pour ceux qui n'ont pas la foi, pourquoi rappeler cette thématique de Jésus lumière du monde ou Jésus lumière sur ma façon de vivre? Parce que justement, à un moment donné de son ministère, Dieu a donné à l'apôtre Paul de parler à Timothée. Et de dire une chose à Timothée, sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Nous sommes en 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien en savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Dans une autre façon de dire, on pourrait dire que l'apôtre Paul dit à Timothée que les heures qui viennent seront des heures graves. La gravité de ce temps dont parle la parole de Dieu, les temps de la fin, ont été introduits par la venue de Jésus dans le monde. Le fait que les temps sont difficiles, ce n'est pas un fait nouveau, mais c'est un fait qui s'accentue, qui s'empire et qui s'aggrave. Et nous le voyons, n'est-ce pas? Ce texte est un texte que Dieu donne il y a près de 2000 ans. Mais aujourd'hui, on peut encore être témoin de ces comportements qui sont décrits dans ce texte. Les gens seront égoïstes. Égoïste, c'est être ami de soi-même, celui qui est ami de lui-même, qui a du mal à aimer les autres, qui ramène tout à lui. Et c'est un peu l'image de notre société actuelle, n'est-ce pas? Ami de l'argent, on pourrait dire avare, affamé d'argent. Notre monde est un peu aussi à cette image. Tout semble tourner autour de l'argent. Fanfarons. Des fanfarons, c'est des prétentieux, c'est des vantards. Orgueilleux. Des personnes qui pensent n'avoir besoin de personne. Elles sont suffisantes en elles-mêmes. Blasphémateurs, ceux qui parlent de Dieu d'une manière injurieuse ou d'une manière, on va dire, désinvolte. Encore hier, j'en ai eu la démonstration lors d'une émission de télévision. Il y a un psychologue qui a écrit un ouvrage, je ne me rappelle plus du titre, mais qui décrit la psychologie de certains personnages anciens et dans lesquels il décrit aussi la psychologie de Jésus. Et selon lui, d'après le doctorat qu'il a eu, l'expertise qu'il a, Jésus serait un colérique suicidaire. Jésus aurait pu se sauver, mais il a décidé de mourir. On lui a donné 2 secondes pour parler de Jésus, et les autres personnages comme Napoléon, il a eu le temps d'en parler largement. Il a parlé aussi de d'autres personnages, mais quand la journaliste voulait l'interroger sur Jésus, il a dit, vous laissez 2 secondes, vous avez parlé de Jésus, pouvez-nous dire quelque chose sur Jésus? Je suis toujours un peu triste quand certains hommes de médias font ça. C'est vers la fin, en quelques secondes, on donne la parole à quelqu'un qui va détruire quelque chose au lieu de le construire. Même si vers la fin, le monsieur, en finissant son bref et rapide exposé sur Jésus, a dit, ce que j'ai dit n'enlève rien au message de Jésus. Ça veut tout dire. Ça veut dire que lui-même, il est conscient qu'en disant ça, il atteint quelque chose. Il détruit une image dans la tête des gens. Ils sont blasphémateurs. C'est ça le blasphème. C'est d'avoir cette liberté de parler de Dieu comme on veut. Ils sont rebelles envers leurs parents. Ça, c'est la crise d'autorité. Hein? Et notre société est bien remplie de crises d'autorité. Ils sont ingrats. Combien de fois l'ingratitude est mentionnée dans notre société? Ils sont sacrilèges, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le sens du sacré. Et parfois, on doit se demander, nous-mêmes, en tant qu'évangéliques, est-ce qu'on a toujours le sens de ce qui appartient à Dieu? Le temps du culte, hein, le temps des choses, est-ce qu'on le fait maintenant avec soin ou finalement on le fait comme toutes les autres choses? C'est ça le sacrilège, désacraliser tout. Dire de toutes les façons, Dieu est partout, Dieu est n'importe où, on fait maintenant les choses de Dieu comme toute autre chose. Oui, Dieu nous a donné la liberté, mais il y a un certain respect. Il y a une certaine façon de faire les choses de Dieu. Ils sont insensibles, c'est-à-dire sans affection. Hein? On le voit aussi dans notre société, on parle beaucoup d'amour dans cette société, et à côté, ça ne cesse de divorcer, de séparer, des querelles, des bagarres, des palabres. Ils sont implacables, c'est-à-dire des gens qui sont impitoyables, hein? Des gens qui sont capables de rejeter même la réconciliation. Hein? Des gens implacables, c'est des gens qui n'ont pas même la capacité de se réconcilier, même quand l'autre veut faire l'effort de se réconcilier. Ils sont médisants. La médisance, c'est le dénigrement, c'est la diffamation. Hein? Ah, ils sont sans maîtrise de soi, la violence. Et j'en passe pour la violence. Ne serait-ce que parler de ce qu'on appelle tout le meurtre des gens qui tuent leurs épouses ou leurs ex-compagnes ou leurs ex-femmes, c'est devenu une mode tragique. Ces derniers mois-ci, ça ne cesse, les féminicides ne cessent de se multiplier. Et je suis toujours étonné des gens qui s'aimaient hier. Comment arrive-t-il aujourd'hui à se tuer? Cruel, sans maîtrise de soi. Ennemis du bien, il n'y a pas besoin d'écrire, traître, emporté par leur passion et enflé d'orgueil, ami du plaisir plus que de Dieu. L'apôtre Paul dira toujours dans cette épître à Timothée au chapitre 4, il dira, car il viendra un temps où ils ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter les récits de pure invention. Ça veut dire que finalement, sans que je ne critique qui que ce soit, cette affaire de religion est devenue une affaire de plaisir, une affaire de se faire du bien. Et finalement, on a l'impression que la religion qui marche, c'est celle qui est sensationnelle. Celle où finalement, je m'excuse, il y a du spectacle. Et on est tous attirés un peu vers ça, n'est-ce pas? Ils garderont la forme de la piété, mais ils en renieront la puissance. C'est-à-dire que de l'extérieur, ils auront encore cette apparence de faire les choses de Dieu. Ce qu'on appelle la religiosité. Mais au fond, ils n'auront plus une communion avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul est bien clair. Il dit, détourne-toi de ces gens-là. Comme pour dire, ne leur ressemble pas. Ne sois pas comme eux. Ça ne veut pas dire de nous soustraire de la société. Mais ça veut dire qu'il faut que le chrétien puisse laisser le Seigneur le transformer. Pourquoi nous avons besoin de Jésus comme lumière sur notre façon de vivre. Le texte d'après, c'est Ésaïe, déjà bien longtemps avant, qui a cette grande prophétie. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par des pestes ténèbres. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. Et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Amen. Pourquoi cette lumière de Jésus doit briller sur notre façon de vivre? Parce que nous sommes un peuple qui vivons dans les ténèbres. Un peuple qui marche dans les ténèbres. Et cette prophétie annoncée bien longtemps, alors qu'Israël était vraiment bas dans sa communion avec Dieu, est l'image de notre monde aujourd'hui. Nous sommes un monde très moderne. Nos villes sont toutes illuminées, mais nos cœurs sont dans les ténèbres. Nos cœurs sont dans les ténèbres. Jésus, lumière du monde, une grande lumière, une grande lumière, une grande lumière brille sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Ma prière, c'est que Jésus continue d'être la lumière pour toi, mon frère, d'être la lumière pour toi, ma soeur, qu'il puisse continuer d'éclairer tous les hameaux, tous les secteurs, tous les détails de ta vie, pour qu'à chaque fois qu'il passe la lumière sur un aspect de ta vie, que tu puisses toi te dire, merci Seigneur, je veux être à la gloire de ton nom. Vas-y. Comment Jésus, finalement, peut être cette lumière sur une autre façon de vivre? C'est dans l'évangile de Jean que nous avons ce texte, n'est-ce pas? Le premier chapitre de l'évangile de Jean, de 1 à 16, mais j'ai choisi de le découper comme vous allez le voir. J'ai expressément mis des pointillés pour lire quelques versets références, mais je vous invite à lire tout le texte une fois chez vous, si vous avez l'occasion. Jean, poussé par l'Esprit, écrit « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. » Verset 9. « Celle-ci, parlant de la lumière, était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme, qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. » Verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui a fait connaître le Père. Jésus, de par son ministère terrestre, rend visible le Dieu qui est un pur esprit. Jésus rend visible Dieu. Et en le rendant visible, il donne à notre humanité de voir des traits de caractère de la nature de Dieu. Il donne comme un exemple, un modèle aux hommes de voir comment Dieu voulait que les hommes soient. C'est pour ça que l'Épître aux Romains dit, le premier homme Adam a échoué, mais Dieu a renouvelé son alliance en donnant un deuxième modèle, Jésus, le nouvel Adam. Lui, il n'a pas échoué. C'est lui qui est le modèle. C'est lui qui nous rend visible la nature de Dieu. C'est lui qui a pu dire, si mon message ne vous dit rien, mais regardez les œuvres que vous m'avez vu faire. Et quand Jésus parle des œuvres, il ne parle pas que des miracles, parce que vous savez qu'à chaque fois Jésus guérit, il ne veut même pas qu'on fasse de la publicité. Il parlait plutôt de la façon dont il a vécu pendant ces 33 ans au milieu des siens. Il a pu mettre ses adversaires au défi. Il dit, qui me convaincra de péché? Et on le voit bien dans la scène de son procès. Ils ont eu du mal à trouver un argument valable pour le condamner. Parce qu'il n'y en avait pas. Il a pu dire, j'ai été tous les jours avec vous. Je n'ai rien caché. Chaque jour, il dit, j'étais au milieu de vous. Ma vie n'a pas été en cachette. Ma vie a été au milieu de vous. Et combien de fois les textes des évangiles nous disent, il était au milieu de la foule, il était avec ses disciples, il était avec un tel, pour témoigner qu'effectivement Jésus a été là. Jésus est le créateur de la vie. Il est à l'origine. Cette lumière, c'est la lumière de notre conscience. C'est la lumière de la raison. C'est celle qui donne aux hommes de faire le bien. Qu'ils soient croyants ou pas, c'est Jésus qui est le détenteur du bien. Malheureusement, l'être humain s'est rebellé contre l'autorité de Dieu. Il a décidé de faire ce qui lui plaît. C'est ça les ténèbres. Les ténèbres, c'est ça. C'est parce que l'être humain a décidé de faire ce qui lui plaît au lieu de faire ce que Dieu avait déjà planifié de bien pour lui, malheureusement. Vas-y. Ce privilège que Jésus nous donne, c'est d'être des enfants de Dieu. N'est-ce pas qu'on dit régulièrement pour nous, pour tous ceux qui ont des enfants, même pour nous qui n'avons pas d'enfants, mais qui sommes issus d'une fratrie, « Ah, tu ressembles à ta mère. Ah, tu ressembles à ton père. » Ne serait-ce que par les traits de visage, n'est-ce pas? Ne serait-ce que par les traits de visage. Et ensuite, quand on grandit, quand on développe un certain nombre de valeurs, d'attitudes, on dit « Ah, tu nous rappelles bien ton père, toi. Il faisait ça comme toi. » Et parfois, on a des tics qu'on a pris d'un de parents. Ah, c'est ta mère, c'est ta mère tout craché. Et parfois, on peut être triste quand même de voir que nous ne ressemblons pas toujours à notre père, car nous sommes des enfants de Dieu. Et moi le premier. Cette tristesse ne m'engloutit pas, cette tristesse me pousse plutôt à aller vers lui, à lui demander encore, à nouveau, de me redonner la force de faire le pas d'après, n'est-ce pas? Et le pas d'après, c'est ce qui nous est dit, n'est-ce pas? Dans Galates chapitre 5. Moi, le texte de Galates, je le prends toujours comme une balise sur mon chemin. Galates 5, quand je suis un peu perdu dans mon repère, comment j'avance, comment je n'avance pas, je reçois quelquefois le texte de Galates 5, le fruit de l'esprit, qui me montre qu'est-ce que Dieu attend du croyant finalement. Et ce texte que vous n'avez pas là, mais que je lis avec vous, Galates 5, 19 à 26, on sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature, dans l'immoralité, l'impureté, le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en parties et en groupes opposés. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivronnerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Verset 22. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le aussi diriger notre conduite, notre façon de vivre, notre comportement. C'est ça que ça veut dire. Passons en revue rapidement, parce que c'est un test que ceux qui sont plus anciens ont connu tellement. Ceux qui sont nouveaux, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce texte. Mais qu'on soit ancien ou nouveau, qu'on ait une proximité avec le texte ou pas, ce qui est important, c'est ce que Jésus dit toujours. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Car ce que Jésus attend, ce n'est pas qu'on écoute seulement, c'est qu'on mette en pratique ce qu'on a compris. Et dans ce fruit de l'esprit, vas-y, l'amour, le premier des éléments qu'il signe dans ce fruit, c'est l'amour. Combien de fois parlons-nous d'amour? Y a-t-il encore besoin de parler de l'amour? Il me semble que non. Ce qui nous reste à faire, c'est de dire, Seigneur, aide-nous à vivre l'amour. Parce qu'on en parle tellement, mais vive l'amour selon Dieu. Parce que l'amour selon le monde, parfois, ce n'est pas le bon, n'est-ce pas? L'amour de Dieu implique l'obéissance, le respect et la fidélité. Ça, c'est l'amour qu'on a pour Dieu. Il n'est pas un sentiment, c'est pas genre aujourd'hui je sens l'amour de Dieu. Ça peut être un sentiment. Un sentiment est là pour nous aider à nous motiver. Mais l'amour de Dieu, avant d'être un sentiment, c'est une obéissance. Si tu aimes Dieu, obéis à sa parole. Si tu aimes Dieu, sois respectueux de ces choses qu'il t'a dites ou qu'il t'invite à faire. Si tu aimes Dieu, bah reste fidèle à lui. Ne te détourne pas. À Josué, il dit ni à gauche ni à droite, mais sois fidèle. Sois fidèle. Celui qui expérimente cet amour de Dieu, qui lui assure la paix intérieure et le protège, éprouve aussi le besoin de témoigner de l'amour à son prochain. Ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on donne. N'est-ce pas? Si nous sommes pétris de l'amour de Dieu, il semble que l'axiome, c'est que si nous sommes pétris de l'amour de Dieu, indubitablement nous-mêmes, nous donnons de l'amour. Et la question qu'on pose parfois dans notre cheminement, c'est, oui, nous sommes pétris de l'amour de Dieu, mais pourquoi nous n'arrivons pas assez constamment à partager cet amour? Mais nous avons déjà une victoire, n'est-ce pas? Pour nous qui sommes en Christ, Dieu soit loué parce que nous le faisons assez régulièrement. Mais nous voulons être des enfants d'excellence. Nous voulons continuer à progresser dans notre amour. L'amour est un défi. La haine, c'est plus facile d'haïr quelqu'un. C'est plus facile de ne pas s'occuper de quelqu'un. C'est plus facile d'ignorer quelqu'un. C'est plus facile même de se bagarrer avec quelqu'un. Ce qui est plus difficile, c'est d'aimer. Parce que l'amour, ça demande tellement. Ça demande tellement. Ça demande tellement. Ça a coûté à Dieu. Depuis qu'il a créé le monde, il a attendu, attendu, relevé, pardonné, pleuré lui-même, son cœur a saigné, pardonné, réessayé, essayé, jusqu'à ce qu'il avait prévu que l'heure de Jésus arrive et qu'il donne son fils. Et qu'on entend ce cri de Jésus à la croix, là-bas, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il portait le péché de l'humanité. L'amour, ça coûte. Mais quel est le plus beau projet? C'est l'amour, les frères et sœurs. La joie principale du chrétien, c'est la joie du Seigneur. Si vous n'avez pas expérimenté la joie du Seigneur, ça veut dire que pour l'instant, vous n'avez pas expérimenté la conversion. Car tous ceux qui sont passés par la conversion ont expérimenté cette joie. C'est une joie qu'on ne peut exprimer que lorsqu'on a fait cette expérience de la conversion. Lorsque nos yeux se sont ouverts, que nous étions sur le mauvais chemin et que de justesse, Dieu nous a rattrapés, et qui nous a remis sur le bon chemin, il y a une joie qui vous anime de dire, oulala, et je ne savais pas tout ça. Et puis les jours d'après, vous êtes encore dans une joie émerveillée de voir toutes ces valeurs belles et nobles que Dieu maintenant vous donne la capacité de vivre que vous n'aviez pas le temps, ni la force de vivre avant. C'est ça la joie du Seigneur. Et cette joie, elle est au-delà du sentiment. C'est un bonheur qui est fondé sur les promesses divines. C'est des promesses qui ne peuvent pas ne pas être tenues. C'est ça, inaltérable. C'est ça qui veut dire des promesses divines inaltérables. Ça veut dire que Dieu, de toutes les façons, il accomplit toujours ses promesses. Toujours. Il dit, je ne suis pas un homme pour me dédier, je ne suis pas un fils de l'homme pour me dédier. Ce que je dis, je l'accomplis aussi. Parfois, le délai, il n'est pas en notre possession, le délai de l'accomplissement. Et j'aime cette parole du prophète qui dit, si la prophétie tarde, attends-la, car certainement elle se réalisera, car certainement elle s'accomplira. C'est pour ça qu'on verra que l'un des fruits de l'esprit, l'un des éléments du fruit, c'est la patience. C'est la patience, justement. Les éléments d'après, s'il te plaît. La paix, la plus profonde, et sa paix, la paix avec Dieu. Dieu est un Dieu de paix, n'est-ce pas? La paix avec Dieu provient du fait que le croyant a été déclaré juste devant lui à cause de sa foi en Jésus-Christ. Nous sommes en paix avec Dieu. Car la Bible dit que nous étions des ennemis de Dieu. Hein? Nous étions opposés à Dieu, même de façon inconsciente. Nous ne le savions pas. Mais si nous ne savions pas que nous mourions, nous serions bien désolés de nous réveiller après la mort en sachant que malheureusement Dieu était en colère avec nous. D'où l'importance de l'évangélisation. Pour annoncer aux hommes, Dieu, vous êtes en opposition avec Dieu. Il faut vous ressaisir. Et cette paix, Dieu nous la donne lorsque nous nous repentons et que nous acceptons Jésus dans notre cœur. La paix en Dieu, c'est cette quiétude, n'est-ce pas? C'est une sérénité intérieure. Elle ne nous évite pas les épreuves de la vie. Mais même dans les épreuves, même si au début nous sommes bousculés, il arrive toujours un temps dans la vie de l'enfant de Dieu, dans l'épreuve où il se stabilise. Quand il a assez bagarré comme celui qui se noie et qui ne sait pas nager, vous savez que les maîtres nageurs ont cette consigne. Quand quelqu'un est en train de se noyer, ce n'est pas les premières secondes qu'il faut aller à son secours. Sinon, le risque, c'est que le maître nageur va se noyer aussi avec lui. Parce que la personne en noyade a tellement de force et a tellement envie de se sauver qu'elle va s'agripper au maître nageur et l'empêcher lui de faire les mouvements qu'il faut pour les sauver tous les deux. Donc on dit parfois, il nous laisse celui qui se noie boire un peu la tasse, se fatiguer un peu, ils arrivent toujours au bon moment pour le récupérer quand il n'a plus de force et qu'il ne peut se confier qu'au maître nageur. Parfois, c'est à ce moment-là que nous avons cette paix. Quand nous sommes débattus de toutes nos forces dans l'épreuve et que finalement la solution n'est pas là. Et là, l'Esprit de Dieu vient nous donner cette quiétude et dit, je vais te porter maintenant. J'arrive au bon moment. N'est-ce pas? Il y avait une bataille dans l'Ancien Testament où les enfants d'Israël étaient dans ce monde de guerre et ils avaient toujours besoin que Dieu fasse un signe. Et le signe de Dieu tardait. Et au moment où il devait aller sur la bataille, il y a un être qui est apparu. Et le leader de l'époque a vu cette tête-là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'être lui a dit, c'est au bon moment, c'est maintenant que j'arrive. J'arrive au bon moment. Au bon moment. Cette paix, elle est là, même dans l'épreuve, frères et sœurs. Et la patience, justement. Cette patience, d'abord, quand il parle de patience, il parle de cette indulgence qui porte à pardonner. Vous savez que notre Dieu est un Dieu de paix, un Dieu de pardon. Et la première patience que nous sommes invités à avoir, c'est la patience relationnelle entre nous. Comme Dieu l'a avec nous. Ça a pris combien d'années, combien de millions d'années à Dieu pour rétablir la confiance avec nous. Nous aussi, nous sommes invités à être patients dans nos relations, dans nos couples, dans nos familles, dans nos relations interpersonnelles, dans nos relations fraternelles. Cette patience, cette indulgence qui porte à pardonner. Alors qu'on pourrait punir. On pardonne. Le pardon n'est pas un oubli. Le pardon n'est pas une faiblesse. Le pardon ne veut pas dire que tu ne m'as pas fait mal. Non. Le pardon, c'est tu m'as fait mal. Ce que tu as fait, ça m'a fait mal. Mais je suis aussi un être humain. Et je peux faire mal à quelqu'un demain. Donc je suis ouvert à me laisser cicatriser et à passer la main. Mais c'est la patience. Parfois, on dit aux chrétiens, tu dois pardonner tout de suite. Oui, on n'est pas tous faits de la même façon. Il y en a qui peuvent pardonner sur le moment, mais il y en a, ça va prendre du temps. Par contre, ce que Dieu demande, c'est que tu sois ouvert. Pas que tu dises, non. Que tu sois ouvert et que tu le laisses lui faire ce travail en toi. C'est une patience, n'est-ce pas? Cette patience, c'est se montrer tolérant. Même dans la persécution, n'est-ce pas? L'amour est patient. La patience, c'est toujours, et avec nos semblables, mais aussi dans l'attente de ce que Dieu a dit qu'il allait faire. N'est-ce pas? Et dans nos relations interpersonnelles, ce n'est pas nous qui changeons les gens, c'est Dieu qui change les gens. Il faut le savoir, même si nous pouvons être des agents entre les mains de Dieu du changement. Vas-y, s'il te plaît. Et on, les trois, la bonté. Y a-t-il encore besoin de parler de bonté? Non. Il y a juste que nous devons continuer, nous les chrétiens, à être des gens de bien dans ce monde. Je regarde parfois les experts dans tel domaine, les experts dans tel domaine. Et je dis merci Seigneur parce que Dieu donne l'intelligence aux humains qui sont experts dans plein de domaines. Et finalement, ces pleins de domaines nous donnent un confort de vie, n'est-ce pas? On dit merci au Seigneur pour cela. Mais nous, quelle est notre expertise en tant qu'enfant de Dieu? c'est d'être des gens qui ressemblent à Dieu, des gens de bien. C'est ça, nous devons être des experts dans la bonté. Nous devons être des experts dans le bien. Nous devons être des experts dans la bonté. Dieu, aide-nous. Seigneur Jésus, aide-nous à être des hommes et des femmes de bien. Que la bonté soit notre leitmotiv. Dans une société où quand tu fais du bien, c'est le mal que tu reçois, on peut vite se décourager. Mais le Seigneur dit dans une des paroles, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ne rends pas le mal pour le mal. Même si on te fait du mal, prends le temps de respirer, mais ne va jamais vers la vengeance. Il dit, car à moi la rétribution, à moi la vengeance. C'est Dieu, c'est pas nous. Voilà l'expertise que nous devons avoir. Et que les hommes puissent dire, mais quelle est cette femme? Mais quel est cet homme? Malgré tout ça, elle est encore là. Il est encore là, malgré tout ça. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour cela. Nous avons besoin de demander à Dieu, aide-nous, fortifie-nous, pour que nous soyons des hommes et des femmes de bien. Et la suite, c'est la bienveillance, l'amabilité. Un bon caractère, frères et sœurs, un bon caractère. Un bon caractère. L'apôtre Paul a pu dire, car nous sommes des lettres ouvertes de Christ. C'est-à-dire que finalement, si les gens ne connaissent pas Dieu, qu'au moins ils connaissent au travers de notre caractère. Si nous continuons à avoir des caractères de cochon, et parfois nous l'avons, ce n'est pas la gloire de Dieu. Du tout. Nous avons besoin de demander à Dieu, Seigneur, change-nous. Il est capable de nous changer. Il veut nous changer. Le veux-tu? Parfois, c'est la vraie question. Est-ce que tu veux être changé? Je crois que tous, on va dire oui. Mais alors, pourquoi on résiste quelquefois? Parce qu'on est des êtres humains faillibles. Et Dieu le sait. Mais il ne se fatigue pas. Il nous relève à chaque fois. Donc, ne reste pas au sol. Relève-toi. Dimanche dernier, ce texte d'Éphésiens nous a dit, réveille-toi, toi qui dors, car Christ fera briller sa lumière sur toi. Relève-toi. La foi, la fidélité, cette foi est une tranquille confiance en un Dieu réel. Frères et sœurs, dans un monde athée, de plus en plus on a l'impression que notre affaire de Dieu, c'est une affaire imaginaire. Parce que quand on écoute les documentaires scientifiques, les journalistes, tout ce qu'on écoute nous démontre qu'on n'a plus besoin de Dieu. Que l'homme est devenu autosuffisant. On vient encore d'arrimer un satellite sur quelque chose en orbite. On est incroyablement intelligent. On a soi-disant dit que Jésus était au ciel. Ils sont allés jusqu'à dans la stratosphère et n'ont pas vu Jésus. Ah ben. On est devenu notre propre Dieu. Et la foi, c'est de toujours croire que Dieu, il existe réellement. Que ce n'est pas une invention, ce n'est pas une affabulation, ce n'est pas des légendes, ce n'est pas des contes, c'est une réalité. Cette confiance, Dieu va te le démontrer si tu restes en communion avec lui et à sa parole. Voilà ce qu'on pouvait dire. La diapo d'après, s'il te plaît. La douceur. Est-ce qu'il y a encore besoin de parler de ça? La maîtrise de soi, peut-être oui, la maîtrise de soi. Ça se signifie se retenir, se maîtriser, c'est ne pas être trop réactif dans toutes les situations. Ça peut arriver une ou deux fois. On est des êtres humains, hein? On n'est pas des robots non plus. Mais quand ça arrive trop de fois, il faut se poser la question, est-ce que cet élément finalement de l'esprit, est-ce qu'il est vraiment développé dans ma vie? Le chrétien, la chrétienne est invitée à développer la maîtrise de soi. Parce que vous savez, parfois on fait de grosses bêtises. Quand il n'y a pas la maîtrise. Et on les regrette tout de suite après. C'est pour ça que l'adage populaire dit quoi? Tourne 7 fois ta langue avant de sortir une parole. Parce que quand une parole est sortie, elle est déjà partie. Elle est déjà partie. un chanteur chrétien a dit, les paroles, c'est pareil comme un pistolet armé. Il dit, avec nos paroles, on peut détruire des vies. Et il reprenait un passage de la parole de Dieu, dans Jacques. Jacques dit, car ce petit organe, la langue, il est comme un petit feu qui peut embraser toute une forêt. Bref, que Dieu nous aide. Voilà ce que je voulais communiquer à chacun d'entre nous ce matin. Vas-y, s'il te plaît. Je rêve, et je prie surtout. Je prie pour que cette parole de Galates 5, 22, 25 soit une réalité dans chacune de nos vies, et moi le premier. Je prie que Dieu nous donne en tant qu'Église, que chacun de nous puisse vivre ça. Ce serait une telle lumière dans nos familles, dans nos lieux de vie, une telle lumière que l'Évangile pourra pénétrer encore les cœurs. C'est parce que d'autres ont eu cette lumière que nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'ils ont eu cette lumière, ils nous ont communiqué l'Évangile de Dieu. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. L'Esprit nous a donné la vie, frères et sœurs. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Et je termine avec ce texte de Jean. Vas-y, la dernière diapo. Jésus, Fils de Dieu, est venu dans le monde pour délivrer les êtres humains pécheurs de leurs péchés et des conséquences du péché et pour leur communiquer la vie de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a communiqué sa vie. Essayons juste, avec l'Esprit de Dieu, de vivre cette vie qu'il nous a communiquée. Continuons de le laisser progresser avec nous. Jean 3, 16, 18. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Je vous invite à la prière. Te bénissons, notre Dieu. Merci de nous aider ensemble. Jésus, c'est toi qui es lumière sur notre façon de vivre. Pendant que je partageais ce texte, je sais ce que ce texte m'a apporté. Cette parole a été pour moi. Et je sais aussi que pendant que je parlais, ce texte parle à chacune de mes sœurs, à chacun de mes frères. Mais il se peut qu'il y ait quelques-uns plus concernés que d'autres. Tu les aides, notre Dieu. Pendant que nous prions, tu les touches là où ils sont. Tu les touches là où ils sont. Et tu les aides à ne pas reculer, à ne pas dire, oulala, je ne peux pas. Mais qu'ils puissent dire, ah, c'est difficile, mais je veux m'accrocher à toi, Jésus. Je sais que tu es capable de m'aider. Avancez. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Au nom de Jésus.
Dieu bénisse sa parole qui nous invite à cet engagement à laisser le Christ vraiment pénétrer en nous par l'Esprit, laisser l'Esprit de Dieu diriger nos vies. Et dans cette conclusion, le pasteur nous invitait à cet engagement et l'Esprit faisant bien les choses, parce que c'est son Église. On va prendre ce dernier chant. Christ seul me suffit. Nous allons le chanter comme cette prière, une prière dans laquelle nous nous engageons à aller de l'avant. Le chant dit à un moment, la croix devant moi, le monde derrière moi. Et nous avons besoin d'être engagés. Nous avons besoin d'être dirigés par l'Esprit de Dieu. Dieu nous a donné le Christ. Et il est tout pour nous. Nous remercions encore le Seigneur pour cette parole qui a été délivrée avec puissance, autorité, et qui vraiment que le Saint-Esprit travaille nos cœurs et nos pensées, nous entraîne à sa suite. Christ est au monde. Oh, Jésus. Que le Seigneur nous tienne par sa main puissante. C'est lui qui a commencé cette œuvre et il est capable de l'achever. Vous pouvez vous asseoir. Je vais... On va passer ce temps aussi de... Nous avons pour les offrandes ce que nous avons mis à côté pour le service de Dieu. Et je vais appeler des jeunes, des petites filles, des tambours, les Jena.